Bonjour chères auditrices et chers auditeurs. Merci de nous rejoindre pour votre santé, votre avenir sur VOA Afrique, The Voice of America depuis Washington DC. À la présentation, Nanit Talani. La migraine fait partie de la grande famille des maux de tête ou céphalées. C'est une crise qui apparaît progressivement et qui est précédée ou non de signes annonciateurs. La migraine est unique par sa durée, son intensité et par sa douleur qui est ressentie en général d'un seul côté de la tête ou localisée près de l'œil. La douleur est perçue comme des pulsations dans la boîte crânienne et elle est aggravée par la lumière, le bruit et parfois les odeurs. La migraine peut aussi s'accompagner de nausées et de vomissements. Comment prévenir les migraines? Comment les traiter? Comment vivre avec les migraines?
Il existe ce qu'on appelle le traitement de la crise de migraine. Elle consiste premièrement en se mettre dans un endroit sans trop de bruit, sans trop de lumière. Et ça, ça diminue fortement l'intensité de la douleur.
Voilà les questions auxquelles répondra le professeur Amadou Gallo-Diop, chef du service de neurologie au CHU FAN. Il est aussi directeur de la coopération de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar au Sénégal. Ensuite, vous suivrez Carnet de santé dans la deuxième partie présentée par Linor Moudou.
Votre santé, votre avenir, l'invité de la semaine.
C'est le moment d'écouter notre discussion avec le professeur Amadou Gallo-Diop sur la prévention des migraines. Bonsoir, professeur.
Et bonsoir.
Merci d'avoir répondu à notre invitation. Nous allons cette fois-ci aborder la question de la prise en charge et de la prévention des migraines. Mais avant cela, j'aimerais que nous revenions sur les causes des migraines.
Je vais vous citer simplement quelques exemples. Il y a des gens qui vont avoir leur crise de migraine à la suite de la consommation d'un aliment spécifique. Il y en a qui vont faire leur crise de migraine pour des facteurs climatiques, quand il fait trop chaud ou quand il fait trop froid. Il y en a d'autres qui vont la déclencher en respirant un produit toxique ou pas forcément toxique, mais auxquels ils sont sensibles, ou bien lorsqu'il y a un environnement psychologique délétère, certains malades aussi peuvent voir leur crise de migraine se déclencher. Donc les facteurs sont nombreux et chaque malade finit par savoir qu'en faisant telle chose ou en étant dans tel environnement ou en consommant tel aliment ou telle boisson ou bien lors des périodes de règles chez certaines femmes, vous voyez, il y en a vraiment beaucoup.
Il est évident qu'on ne peut pas énumérer tous les facteurs.
On ne peut pas tous les citer, mais chaque malade finit par connaître un ou deux facteurs déclenchants de sa migraine.
Est-ce que les migraines constituent une des raisons pour lesquelles les gens viennent vous consulter?
Dans le monde entier, le premier motif de consultation est constitué par les douleurs. Et parmi ces douleurs, le mal de tête ou le mal de l'extrémité du corps, donc tête et une partie du visage, occupe une place prépondérante. Mais tout n'est pas migraine.
Tout n'est pas migraine. Que peut-il y avoir encore derrière un mal de tête?
Et parmi ces maux de tête, en dehors de la migraine et de certaines causes que j'ai citées, vous avez une bonne partie de maux de tête qui vont être des maux de tête liés souvent à un état psychologique, à une anxiété, à une dépression, à un mal-être ou à d'autres choses qui sont absolument subjective, avec un fondement psychologique grave ou souvent pas grave et qui vont être absolument fréquents. Mais en général, dans les sphères des neurosciences, que ce soit la neurologie, les sciences psychologiques, la neurochirurgie, vous allez avoir cette plainte qui est très récurrente. Et dans tout ce qui touche à la tête, les sinus, les oreilles, les yeux, donc, chez les ophtalmologues, les ORL, vous allez aussi avoir des plaintes qui tournent autour de cette sphère-là.
D'où l'importance de consulter un spécialiste.
Le but après du spécialiste, c'est de dire ça, c'est de l'ORL, ça, c'est de l'ophtalmologie, ça, c'est de la dentisterie, ça, c'est de la neurologie, ou ça, c'est de la psychologie ou de la psychiatrie. Oui, les gens viennent consulter, comme partout ailleurs en Afrique, comme partout ailleurs dans le monde, quand un mal de tête devient chronique, c'est-à-dire va durer quelques semaines ou quelques mois jusqu'à provoquer une certaine inquiétude qui doit faire consulter.
À quel moment devrait-on consulter un spécialiste ou un médecin quand on a mal à la tête?
Très tôt, parce que plus tôt on fait un diagnostic et mieux sera instituée la bonne prise en charge.
Une fois que le diagnostic est établi et qu'on sait que le patient souffre des migraines, est-ce que le patient peut juste se contenter de traiter ses migraines à la maison ou il doit nécessairement suivre un traitement avec un médecin?
Alors, la prise en charge de la migraine répond à certaines règles.
Et quelles sont ces règles?
Première règle, il faut voir s'il existe des facteurs déclenchants ou pas. S'il en existe, par exemple, si une personne dit, moi j'ai remarqué que chaque fois que je mange crevette ou chaque fois que je mange tel mets ou je bois telle chose, quelques instants plus tard, je déclenche ma migraine. Ou quand une jeune femme dit que moi c'est au déclenchement de mes règles que systématiquement ma migraine se déclenche. Ou quand il fait très chaud ou quand il fait très froid. Donc quand il existe un facteur déclenchant qu'on peut gérer, qu'on peut manager, il faut y prêter la plus grande attention, soit l'éviter, soit essayer de la maîtriser. Je sais que ce n'est pas toujours envisageable. Deuxième règle, il existe ce qu'on appelle le traitement de la crise de migraine. Elle consiste premièrement en se mettre dans un endroit sans trop de bruit, sans trop de lumière. Et ça, ça diminue fortement l'intensité de la douleur.
Quelle est la troisième règle? En quoi consiste-t-elle?
Troisièmement, vous avez consulté, le médecin vous a prescrit une ordonnance et en général, sur cette ordonnance, le médecin vous dira ce médicament-ci, dès que la crise est en train de s'installer, prenez-le tout de suite. Ou quand la crise est déjà installée, prenez ce médicament-là. Vous en prenez à telle dose par jour. C'est ce qu'on appelle le traitement de la crise. C'est donc un groupe de médicaments, donc des antidouleurs, qu'on prend au début ou au cours de la douleur de migraine se déclenchant ou déjà déclenchée. Il existe la troisième composante qui est ce qu'on appelle le traitement de fond.
Quel est le but fondamental de ce traitement de fond?
Le traitement de fond est que beaucoup de patients négligent est très important. C'est un médicament dont le but est de diminuer la fréquence de récidive des crises douloureuses de migraine ou si malgré tout la migraine se déclenche tout de même, l'intensité va être amoindrie parce que vous respectez ce traitement de fond.
Ce traitement de fond, est-ce un médicament? Comment est-il administré?
En général, c'est un médicament qu'on prend une ou deux fois dans la journée et qu'on doit prendre sur une période assez prolongée pour atténuer la crise de migraine ou diminuer sa fréquence de récidive. Mais plusieurs personnes, dès qu'ils n'ont plus mal, ils arrêtent le traitement de fond. Alors que c'est ça qui prévient la crise de migraine. Et enfin, la dernière composante sur laquelle j'anticipe, c'est d'avoir une bonne hygiène de vie.
Et qu'est-ce que vous entendez par bonne hygiène de vie?
L'hygiène de vie, ce sont des règles de style de vie, des conseils qu'on donne à tout le monde, mais qui vont s'appliquer formidablement chez une personne qui souffre de crise de migraine. On peut en citer quelques-uns de ces recommandations, ou quelques-unes de ces recommandations, quelques conseils. Premièrement, il faut veiller à avoir un sommeil nocturne de bonne qualité.
Comment peut-on mesurer la qualité d'un bon sommeil?
C'est-à-dire quand on finit par savoir le nombre d'heures dont on a besoin pour se sentir reposé et en forme, ce qui est variable selon les personnes, variable selon les âges, mais au minimum, un être humain, un adulte, doit s'arranger pour dormir au minimum 6 heures de temps la nuit. Minimum. Il y en a qui ont besoin de 7 heures, d'autres 8 heures, mais le minimum, c'est 6 heures de temps. Un sommeil, donc, où on respecte la durée du sommeil, et on se met dans un environnement qui favorise la qualité de sommeil.
Pourquoi est-ce si important de veiller à la qualité de son sommeil?
Parce que durant le sommeil, il y a beaucoup de choses qui sont régulées, beaucoup de choses qui sont réparées, que ce soit dans le corps ou dans la tête. Deuxièmement, il faut veiller à respecter une une activité physique sportive. Il faut que au moins 4 fois dans la semaine, on dit 3 fois, mais moi je dis 4 fois dans la semaine, il faut s'organiser, trouver le temps de faire une activité sportive.
Quelles sont ces activités sportives qui peuvent être recommandées dans ce cas-là?
Ça peut être de la marche, ça peut être du vélo, ça peut être de la natation, ça peut être de la danse, ça peut être du football. On fait ce qu'on peut faire et ce qu'on a envie de faire. Mais bouger au minimum pendant 30 minutes et 3 ou 4 fois dans la semaine. Troisième recommandation, il faut veiller à avoir une hygiène alimentaire, évitant les excès de sel, de sucre, de matières grasses, et veiller à boire suffisamment d'eau dans la journée.
Pourquoi il est important de boire l'eau et quelle est la quantité d'eau qu'on devrait boire chaque jour?
Beaucoup de personnes souffrent de plusieurs types de douleurs et quand vous les interrogez, ils ne boivent pas. On ne boit pas suffisamment d'eau. Alors qu'un adulte doit boire au minimum 1,5 litre d'eau par jour entre son réveil jusqu'à 20 heures, un enfant au minimum environ 1 litre d'eau dans la journée. Je dis 20 heures parce que quand on boit trop tard le soir, on risque d'avoir des envies nocturnes qui vont vous réveiller et qui vont perturber la qualité de votre sommeil.
Et qu'en est-il du stress, professeur?
L'autre conseil est plus difficile à respecter. Il faut essayer d'éviter tous les facteurs de stress, que ce soit des stress personnels, professionnels et autres, mais il faut en tout cas essayer de prendre la vie avec certaines philosophies, surtout quand les facteurs de stress déclenchent votre migraine.
Nous vous remercions beaucoup, professeur, pour votre disponibilité.
Merci beaucoup.
Au revoir.
Au revoir.
Vous suivez Votre Santé, Votre Avenir sur VOA Afrique.
C'était notre entretien avec le professeur Amadou Gallo Diop sur la prévention des migraines. Maintenant, place à Carnet de Santé présenté par Linor Moudou.
Cette semaine dans Carnet de Santé, Remdesivir est approuvé aux États-Unis comme traitement d'urgence pour le COVID-19. Ensuite, la tisane COVID Organics de Madagascar suscite l'intérêt d'autres pays africains. Mais l'OMS émet des réserves. De plus, nous verrons le témoignage de certains patients guéris du COVID-19. Enfin, la pilule contraceptive a 60 ans aux États-Unis. Une véritable révolution pour les femmes qui fait pourtant polémique. C'est dans cette édition de Carnet de Santé. Bonjour, merci de nous rejoindre pour une autre édition de Carnet de Santé. La course contre la montre se poursuit dans la lutte mondiale contre la pandémie de coronavirus. Il n'existe toujours pas de traitement spécifique pour le COVID-19 et les experts optent pour des thérapies expérimentales afin de soigner les malades. Plusieurs essais cliniques sont en cours. Récemment, l'Agence américaine de contrôle des aliments et des médicaments, la FDA, a autorisé l'utilisation d'urgence du médicament Remdesivir pour soigner les patients souffrant du nouveau coronavirus. Reportage de Patsy Widakuswara, récit de Mohamedou Rumfa.
Le Remdesivir est un médicament antiviral expérimental à large spectre. Il a été fabriqué par le groupe pharmaceutique américain Gilead Sciences, initialement pour traiter la maladie à virus Ebola. Le président Donald Trump a annoncé que ce médicament a été approuvé par la FDA pour une utilisation d'urgence contre le COVID-19.
Nous avons travaillé avec les équipes de la FDA, du NIH et de Gilead pour diriger ce partenariat public-privé afin que cela se produise très rapidement.
Selon des études préliminaires, le Remdesivir permettrait de réduire de 4 jours en moyenne le traitement des patients du COVID-19.
Cela ne change pas la donne, mais c'est extrêmement important pour plusieurs raisons. Premièrement, cela montre que nous pouvons en fait avoir un impact sur l'évolution de la maladie pour ceux qui sont le plus à risque. Et deuxièmement, cela nous permettra de mieux allouer des ressources aux hôpitaux, lits, blouses, masques, médecins, infirmières, techniciens, afin que nous puissions protéger les personnes les plus à risque.
Daniel O'Day, patron de Gilead Sciences, a annoncé que son groupe faisait don de 1,5 million de flacons du médicament et travaillerait avec le gouvernement fédéral pour le distribuer aux patients nécessiteux. La FDA a précédemment autorisé l'utilisation d'urgence de l'hydroxychloroquine, un médicament antipaludique pour lutter contre le COVID-19. Elle a par la suite émis un avertissement contre son utilisation en dehors d'un hôpital ou d'un essai clinique après des constats de graves problèmes de rythme cardiaque chez certains patients.
Le lenacévir ne concerne pas 85% des patients atteints du COVID-19 qui peuvent en fait guérir juste en s'isolant et en buvant beaucoup de liquide. C'est pour les gens gravement malades. Ce sont ceux qui en ont vraiment le plus besoin en ce moment.
Le remdesivir reste donc une option de dernier ressort pour les cas les plus graves de COVID-19.
La recherche d'un traitement contre COVID-19 se poursuit et l'Afrique n'est pas en reste. COVID Organics, un remède à base de plantes promu par le chef de l'État de Madagascar comme prévention et traitement pour la maladie, suscite de l'intérêt dans d'autres pays africains. Cependant, l'OMS émet des réserves sur la boisson qui, selon elle, doit être testée pour son efficacité et ses effets secondaires indésirables. Suivez.
Une semaine après le lancement du COVID organique, le président tanzanien Magufuli a déclaré que son pays était intéressé par le produit malgache. Des échantillons de l'infusion de plantes de Madagascar sont alors livrés à Dar es Salaam. Le don intervient quelques jours après que la République démocratique du Congo et la Guinée équatoriale ont reçu leur commande. S'adressant à des journalistes à Dar es Salaam, le ministre tanzanien a déclaré qu'il testerait les produits bio convoité avant de les distribuer.
Nous testerons ce médicament et après avoir obtenu des résultats, nous saurons quelle action entreprendre. Nous ne sommes pas venus avec des médicaments à distribuer aux gens. Nos experts ont reçu la formule et la manière de mélanger le médicament. Après les résultats, nous vous informerons de la prochaine étape.
L'Organisation mondiale de la santé a averti à plusieurs reprises que la perfusion de COVID organique n'avait pas été testée cliniquement. Le président malgache, Andry Rajoelina, a vanté l'infusion comme un remède contre le coronavirus mortel et dit que la critique du tonique à base de plantes montre l'attitude condescendante de l'Occident vers l'Afrique. L'Union africaine a exprimé la nécessité de voir des données scientifiques sur la sécurité et l'efficacité du produit. Le président de l'Association des infirmières et infirmiers de Tanzanie a déclaré qu'il diviserait les patients en trois groupes et testerait COVID organique, mais qu'il suivrait également un médicament antiviral, l'Edamsivir, développé par Gilead Sciences.
À l'heure actuelle, nous poursuivons le traitement avec un médicament appelé Remdesivir, un antiviral qui a fait ses épreuves aux États-Unis pour lutter contre le coronavirus. Le moment venu, nous enquêterons avant de distribuer le COVID organique aux gens. Nous sommes prêts à tout médicament de n'importe quelle partie du monde, mais nous devons être sûrs de la qualité de ces médicaments.
Malgré les réserves, d'autres pays africains tels que le Nigeria, la Guinée-Bissau et le Libéria ont commandé COVID organique. L'infusion est produite à partir d'une plante, Artemisia ou armoise. La source est utilisée dans le traitement du paludisme ainsi que d'autres plantes malgaches. COVID organique a été développé par l'Institut malgache de recherche appliquée, géré par l'État.
Le docteur Michel Yao est responsable des programmes d'urgence pour le bureau de l'OMS en Afrique à Brazzaville au Congo. Il s'est exprimé sur le COVID organique au micro de Mohamedou Mfa.
L'OMS, en fait, surtout pour l'OMS Afrique, on encourage un peu des innovations, notamment venant de ces médicaments traditionnels, mais à une condition, que cela suive un protocole scientifique. La plupart des pays, sinon tous les pays d'Afrique, depuis l'an 2000, se sont engagés à travailler pour faire des recherches avec ces médicaments traditionnels avec l'appui de l'OMS. Mais cela doit se faire étape par étape avec un protocole aussi bien approuvé par des comités éthiques nationaux que par des comités de médecine qui existent aussi au niveau des pays.
Récemment, 70 experts africains en médecine traditionnelle ont tenu une réunion virtuelle avec l'OMS sur le rôle de la médecine traditionnelle dans la réponse au Covid-19 et ont unanimement convenu que des essais cliniques devaient être menés pour tous les médicaments de la région, sans exception. Le professeur Moussa Sedi est chef du service des maladies infectieuses de l'hôpital de Fan à Dakar et responsable de la prise en charge des malades du Covid-19 au Sénégal. Il partage son avis sur les différentes thérapies utilisées dans le traitement des personnes souffrant du nouveau coronavirus.
Il n'y a aucun traitement au monde qui a été validé, mais les Américains utilisent le remdesivir. Et la FDA a déjà donné son accord parce qu'ils ont trouvé que ça permettait de réduire la durée d'hospitalisation de 4 jours. Mais au même temps, les Chinois ont publié un article dans une revue de haute facture, le Lancet, en disant que ça ne marchait pas. Donc chacun, en ce qui le concerne, devra se baser sur ses propres résultats pour faire des recommandations et prendre des décisions. Certains disent que ce n'est pas efficace, l'hydroxychloroquine et l'hydroxychloroquine associée à l'azithromycine, et que même c'est dangereux. C'est normal que ces derniers peut-être refusent de l'utiliser. Moi, ici au Sénégal, j'ai adopté le protocole du professeur Didier Raoul et j'ai fait une analyse intermédiaire concernant la réduction de la durée d'hospitalisation, analyse préliminaire, bien sûr, que ceux qui avaient consulté tôt et qui avaient démarré l'hydroxychloroquine dans les 24 heures avait une durée médiane d'hospitalisation de 8 jours. Et mieux encore, tous les patients qui ont été vus précocement et traités précocement par l'hydroxychloroquine n'ont eu aucune complication, encore moins de cas de décès.
Le nouveau coronavirus peut être mortel chez un certain nombre de patients en raison de facteurs tels que l'âge et la présence de conditions sous-jacentes. Mais la bonne nouvelle est que la plupart des personnes qui en deviennent infectées peuvent se rétablir. Voici quelques témoignages.
Les deux premières semaines, ça n'a pas été facile parce que je ne pouvais pas me lever pour manger. Quand on m'amène à manger, il faut 2 jours ou bien une journée et demie avant que je puisse descendre chercher la nourriture. C'était pas facile pour moi. Les deux premières semaines, en tout cas, ça n'a pas été vraiment facile pour moi. Et il n'y a pas de remède, mais moi, je prenais beaucoup le gingembre, et citron et le miel. Et je prenais aussi la paracétamol pour la fièvre. Je prenais les tisanes africaines, les tisanes quinqueliba, beaucoup de vitamine C. Je prenais beaucoup de vitamine C, beaucoup de vitamine D. Aujourd'hui, je n'ai pas de séquelles. Juste que je suis devenue paranoïaque quand je sors, quand je reviens à la maison, je ne veux rien toucher en fait. Je veux aller me laver les mains. Je suis devenue paranoïaque en fait. Moins de choses, j'ai l'impression que je peux chipper ça encore.
Le mal de tête était terrible. Il ne disparaissait pas, même après que j'ai pris un analgésique. J'avais l'habitude de prendre beaucoup de liquide, surtout du thé. J'ai aussi utilisé du gingembre et de l'ail. Heureusement, Dieu m'a aidé et je n'ai eu aucun problème respiratoire, à part la toux et les maux de tête. Je respirais bien.
Le 9 mai 1960, le FDA aux États-Unis a approuvé la vente de la première pilule contraceptive fabriquée dans le monde, considérée comme une révolution dans le domaine de la santé reproductive des femmes. 60 ans plus tard, l'accès à la pilule et à d'autres méthodes de contraception reste limité pour certaines femmes et le médicament hormonal qui bloque l'ovulation afin d'éviter une grossesse continue de susciter la polémique.
Elle était vue comme une découverte révolutionnaire, la pilule d'un jour, qui permettrait aux femmes de décider si oui ou non l'acte sexuel pouvait déboucher sur une grossesse.
Fondamentalement, cela a changé la trajectoire des droits des femmes, leur a donné plus de pouvoir et a déclenché une révolution économique et sociale.
Lorsque la FDA approuve la pilule en 1960, celle-ci arrive, comparée à d'autres contraceptifs, avec une nouveauté. Elle permet aux femmes de décider d'opter pour la contraception sans forcément l'avis de leur partenaire.
Cette capacité de contrôler sa propre fertilité en toute discrétion a été révolutionnaire car elle a par exemple apporté plus de pouvoir de décision aux femmes qui n'avaient pas beaucoup de choix auparavant quand leur mari voulait faire des enfants.
Cependant, dès sa découverte, la pilule a suscité de la controverse, avec notamment l'opposition de certains religieux aux États-Unis et ailleurs.
L'Église catholique s'est historiquement opposée au contrôle des naissances et même à l'usage du préservatif, ce qui est devenu problématique pendant l'épidémie du sida.
En outre, l'usage de la pilule comme moyen de prévention des grossesses non désirées a buté sur des obstacles d'ordre culturel, social ou politique.
Une femme peut être conseillée avec son mari et recevoir gratuitement des outils de contraception. Mais ce qu'elle en fera ensuite sera peut-être conditionné par ce que son mari veut.
Selon l'ONG Planned Parenthood, il y a environ 230 millions de femmes dans le monde qui ont besoin de contraceptifs mais n'y ont pas accès. Elles doivent en outre affronter divers obstacles, quand bien même elles y ont accès.
Notre émission tire à sa fin. Pour plus d'informations et l'actualité sur le nouveau coronavirus, rendez-vous sur notre site web voaafrique.com. Vos questions et vos réactions sont toujours les bienvenues sur la page Facebook de VOA Afrique. Vous pouvez aussi me suivre sur Twitter, @lenormoudou. Merci de votre fidélité à Carnet de Santé. D'ici la semaine prochaine, on se lave les mains fréquemment. Portez-vous bien et à très bientôt.
C'est la fin de ce magazine Votre Santé, Votre Avenir. Nous étions en compagnie du professeur Amadou Gallo Diop sur la prévention des migraines. Le professeur Amadou Gallo Diop est chef du service de neurologie au CHU FAN à Dakar. Il est aussi directeur de la coopération de l'université Cheikh Anta Diop dans la capitale sénégalaise. Nous vous avons également présenté Carnet de Santé avec Linor Moudou. Ce magazine Santé a été réalisé grâce au concours de Cheikh Thiéro. À la réalisation, Tony Parker. À la présentation, Nanite Talani. Continuez d'écouter VOA Afrique et n'oubliez surtout pas de prendre soin de votre santé, car votre santé, c'est votre avenir.
C'était Votre Santé, Votre Avenir, une production de VOA Afrique. Pour vos commentaires, vos questions ou vos témoignages, retrouvez-nous sur voafrique.com ou sur notre page Facebook VOA Afrique.
Le soin médecin, très tranquille, et ma double prod. Ah, pour rien comme ça, on te jalouse. Ton cœur est blanc, il te veut du mal. Tu es gentil. Sans méchant, toi-même tu comprends rien. Oh. En réalité, la réalité, moi je te le dis, c'est ta lumière qui domine la queue noire. Oh. Ne les calcule pas, tu as la grâce de Dieu sur toi. Hey. Tous ceux qui t'ont jeté vont te rechercher, tous ceux qui t'ont humilié vont te respecter, tous ceux qui t'ont enterré vont te déterrer. Lesquels eurent raison? Kérosène équilibre, Kiki Benzeni, Molaré. Souvent la méchanceté des hommes te fait tellement mal que tu n'as même plus envie d'aider quelqu'un. Pendant que tu fais des efforts pour que le bon y avance, ils font tout pour que tu tombes. Mais toi, tu dois les ignorer. En vie, Lucien, faut pas avoir peur, rien ne peut t'arriver. Mission sur cette terre, c'est Dieu qui a tracé. Eux-mêmes, ils vont le constater. Papa, sans discours, tous ceux qui t'ont jeté vont te rechercher. Tous ceux qui t'ont humilié vont te respecter. Tous ceux qui t'ont enterré vont te déterrer.